Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale depuis la capitale belge. C'est à Bruxelles, dans les studios de la Commission européenne, que nous avons le plaisir de recevoir la nouvelle commissaire européenne belge, Adja Labib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de deux thématiques au cœur de l'actualité. Anticipation et gestion des crises, ça inclut les crises humanitaires dans le club des 27, mais aussi notre aide à l'extérieur, à travers le monde. Donc, et puis deuxième intitulé, égalité. Alors égalité entre les citoyens européens, les hommes et les femmes, bien sûr. Non-discrimination à l'encontre des minorités ou des personnes handicapées. Très vaste portefeuille, Madame Labib. Vous apportez donc à ce portefeuille une expérience d'ancienne journaliste reporter pour la télévision publique belge et puis de ministre des Affaires étrangères aussi pour le mouvement réformateur, qui est un parti libéral belge qui correspond au groupe Renew Centriste sur la scène européenne. Alors, on commence effectivement avec une question sur votre premier voyage, voyage en Ukraine. Vous avez annoncé là-bas l'attribution d'une aide humanitaire de 140 millions d'euros, alors que les températures, il faut le dire, commencent à descendre jusqu'à moins 20 degrés et l'Ukraine s'enfonce dans l'hiver et la crise humanitaire.
Alors tout d'abord, je peux vous dire que la situation est effectivement très grave. Je me suis rendue à 2 heures plus ou moins de Kiev. Et j'ai pu visiter des projets que nous soutenons, des écoles que nous avons pu réaffecter, des cliniques ambulantes. Et à chaque fois, à chaque étape, nous avons fait à peu près 4-5 étapes. Nous étions évidemment assez près de la frontière. Nous avons commencé nos visites en nous rendant dans des abris parce qu'il y avait des alertes à la bombe. Et donc, vous percevez véritablement la menace. La situation est tout à fait différente à Kiev. Et ce qui frappe, d'abord, c'est évidemment le froid.
Le froid, parce qu'il faut bien dire aussi que les infrastructures ont été touchées quand même par les Russes. Qu'il manque d'électricité et de...
En violation totale du droit international humanitaire. Et là, quand on dit violation du droit international humanitaire, on a les conséquences. Et donc, les conséquences, c'est que les enfants, les femmes, sont les premières victimes, les personnes handicapées, qui sont déplacées à des kilomètres parfois de chez eux, sans électricité, sans abri, sans maison, tout est détruit. Et donc, il faut les reloger dans des universités, dans des écoles qui sont évidemment délabrées et qu'il faut chauffer. Et donc, une grande partie de notre aide humanitaire, en fait, consiste à répondre aux besoins de première nécessité. On a un programme qui s'appelle Winterization. En fait, je ne sais pas comment le traduire en français, qui tient compte, en fait, de ce cœur de l'hiver dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui.
Oui,
et qui permet aux gens, simplement parfois, d'acheter du bois pour se chauffer. Et voilà, j'ai parlé à une dame, Elena, qui me disait, vous savez, ça c'est 6 mois de travail, de salaire, pour acheter du bois pour se chauffer 1 mois seulement. Et donc, ça montre la précarité. On supporte énormément, en fait, de projets qui sont extrêmement concrets dans l'aide grâce à une localisation, en fait, de notre aide avec des partenaires locaux.
D'ailleurs, il y a aussi 8 millions dédiés à la Moldavie voisine, parce que la Transnistrie, qui est un territoire donc séparatiste pro-russe de Moldavie, connaît l'arrêt des livraisons du gaz russe et se trouve dans une situation de crise énergétique et donc humanitaire tragique.
Oui, et donc c'est toute la région en réalité qui est touchée par cette guerre, et nous-mêmes d'ailleurs, hein, on peut parler des attaques hybrides, de la désinformation, etc. Mais donc cette guerre ne s'arrête pas à l'Ukraine. Et pour notre opinion publique qui pourrait penser en quoi cette guerre nous concerne, parce que certains pourraient se dire fatigués, même s'ils la voient à distance, en fait on en subit déjà toutes les conséquences en termes de cyberattaques, de désinformation, de cas qui sont cassés ici et là dans la mer Baltique, de manque d'approvisionnement énergétique. Tout ça est extrêmement grave. Et si l'Ukraine ne gagne pas cette guerre, elle ne s'arrêtera pas effectivement à ces frontières-là. Et nous risquons alors d'être physiquement en danger aussi.
Parlons de l'autre conflit qui préoccupe beaucoup l'Union européenne, dans son voisinage sud, bien sûr, cette fois-ci, le conflit israélo-palestinien, éclairci du côté de Gaza avec une trêve tant attendue, mais la situation humanitaire reste tragique. L'Europe peut-elle accéder à Gaza, être une force de reconstruction ?
Effectivement, il y a là peut-être une éclaircie qui s'annonce avec l'échange d'otages, de prisonniers, un cessez-le-feu que nous appelons depuis le début du conflit. Là aussi, nous sommes en pleine violation du droit international humanitaire qui demande de ne pas prendre les populations civiles ni en otage et ne pas viser non plus les infrastructures comme on le voit. Alors, Gaza est démolie à plus de 80%. Les derniers hôpitaux qui étaient en état de fonctionner ont été sévèrement touchés aussi. Ce sont principalement des femmes, des enfants. Maintenant, on parle d'un nombre de 60 000 personnes. Et l'accessibilité de l'aide humanitaire est sans doute la chose la plus difficile. Et vous savez que le Parlement israélien a voté une loi qui risque de bannir toutes les activités de l'UNRWA, alors qu'on sait, toutes les études le montrent, les experts disent
que rien,
les Nations Unies, l'Union européenne aussi, rien ne peut remplacer l'UNRWA. Les services qui sont donnés, prodigués par l'UNRWA, que ce soit au niveau éducatif, que ce soit au niveau psychosocial, parce qu'il n'y a pas que l'aide humanitaire proprement dite, médicale, sanitaire, sont énormes. Et donc, nous allons là vers une véritable tragédie dit si cette loi est appliquée. Et nous en discuterons effectivement au Conseil Affaires étrangères, où je prendrai la parole d'ailleurs pour faire un état des lieux au niveau humanitaire.
Alors, sur un autre terrain mouvant, celui de la Syrie, l'Union européenne pourrait progressivement assouplir les sanctions en cas de projet tangible des nouvelles autorités emmenées par la formation radicale islamiste HTS. Les sanctions qui entravent l'accès à l'aide humanitaire, en effet. Est-ce que ces aides humanitaires peuvent être conditionnées au bon respect de la diversité des cultes et de la liberté des femmes ? C'est votre autre portefeuille, l'égalité.
Oui. Alors, l'aide humanitaire a une spécificité. Elle est inconditionnelle. Elle est basée sur les besoins d'une population, quelle qu'elle soit. Elle est impartiale, neutre et inconditionnelle. Et donc, ce n'est pas politique. Et en fait, l'Union européenne, si elle est partie en 2011, lors de la crise, l'aide humanitaire que nous avons prodiguée au niveau de la Syrie n'a jamais quitté, en fait, la Syrie. Donc, depuis 2011, nous avons attribué beaucoup d'aide humanitaire, y compris d'ailleurs avec les autorités de facto actuelles. Nous avons été présents dans toutes les provinces et en particulier à Idlib, où nous avons fonctionné en bonne intelligence, en respectant nos principes de neutralité et en prodiguant de l'aide partout où elle était nécessaire. Et donc ce que nous attendons aujourd'hui, c'est une Syrie inclusive, une Syrie qui permet à tous les Syriens d'exister avec leurs différences, y compris évidemment dans le respect du droit humanitaire, des droits de l'homme, mais surtout aussi des droits des femmes, des minorités religieuses, etc. Et donc ça, on va juger les autorités sur les faits, sur ce qu'elles feront dans leurs actes dans les prochaines semaines, parce que ce qu'il faut maintenant, c'est permettre à la Syrie de se reconstruire pleinement.
Vous avez, en tant qu'ancienne journaliste, effectivement, bien connue et visité l'Afghanistan, consacré un documentaire en 2008, un livre à ce pays où 16 millions d'Afghans sur 38 millions ont besoin d'assistance. Bruxelles est le seul acteur politique occidental présent à Kaboul. En juin, on a débloqué donc 150 millions d'euros sur la réserve d'aide d'urgence. Quelle aide humanitaire pour ce pays aux mains des talibans ?
Une aide humanitaire qui est là depuis 1994. Et donc tous les édits, etc., par les talibans qui empêchent par exemple les femmes de travailler dans les ONG, etc., n'ont pas vraiment été appliqués et ont permis à notre aide humanitaire d'être maintenue sur place. Nous sommes présents dans 34 provinces.
Paris, par exemple, s'oppose à une forme d'aide au développement en faveur de Kaboul à cause de justement son traitement des femmes.
Écoutez, j'entends, mais ce que nous demandent les femmes afghanes est à nos yeux plus important. Et ce qu'elles nous demandent, c'est de rester. Parce qu'elles ont besoin de notre aide, parce qu'elles sont les premières à bénéficier aussi de notre aide avec leurs enfants. Et donc nous resterons tant que nous pouvons travailler et faire parvenir notre soutien humanitaire à toutes les femmes.
Parlons de l'aide humanitaire à l'intérieur du club européen dont vous êtes aussi en charge à Jalabib, singulièrement dans un pays riche comme la France. Elle a dû appeler à la solidarité européenne face à la crise humanitaire à Mayotte, département région français d'outre-mer. Les habitants déjà sinistrés par le cyclone Chido affrontent fatigués la tempête dès qu'elle est dit. Les précisions tout de suite de Gaëlle Fonseca.
Après Chido, Dikeledi. Pas encore remis du cyclone du mois dernier, les Mahorais ont été frappés par une nouvelle tempête.
On est traumatisés déjà avec Chido là, et puis ça, là on a plus de mots. Hein.
Le passage de Dikeledi à une centaine de kilomètres de l'archipel a causé de nombreuses inondations. Un ravage à l'intérieur des maisons, déjà détruites le mois dernier.
Tout est foutu en fait. Il y a l'eau, ça a tout abîmé, les matelas, les lits, les armoires, nos meubles qu'on vient tout de suite d'acheter. Bah, là, tout est parti en fait. Là, on va juste tout dégager.
Pour aider la population, la sécurité civile est déployée. Nettoyer les maisons en bouée et rétablir les voies de circulation sont leurs priorités. Sur tout l'archipel, plus de 16 000 personnes ont été accueillies dans des centres d'hébergement d'urgence. Selon les autorités, seuls 5 blessés sont liés aux intempéries et aucun décès n'a été recensé. Le préfet se veut donc rassurant.
Très peu de victimes, on touche du bois, heureusement. On a travaillé sur la téléphonie, on a travaillé sur les déchets, on a travaillé sur l'assainissement. Tout ce travail-là qui a été engagé 4 semaines après Chido n'a pas été trop ralenti.
L'archipel reste néanmoins en vigilance orange, forte pluie et orage. La saison des pluies s'étend officiellement jusqu'à la fin avril.
Alors, Adja Labib, commissaire aux crises, en réponse à la demande d'assistance de la France à Mayotte, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, la Suède ont proposé des abris, d'autres articles, à travers ce fameux mécanisme de protection civile de l'Union européenne et les Stock Rescue EU. De quoi s'agit-il exactement? Comment expliquer qu'un pays riche ait besoin de l'aide européenne?
C'est pas parce qu'on est riche qu'on sait faire face à une catastrophe aussi vaste qu'un cyclone ou à une pandémie. Et c'était une des leçons apprise de la pandémie. On ne peut pas faire face à des catastrophes de telle ampleur seul dans son coin. Et donc, qu'est-ce que c'est que le mécanisme de solidarité, de protection civile? En réalité, c'est le résultat de la contribution de tous les États membres, les 27 et plus largement d'ailleurs, parce qu'en fait il y a 37, les 27 plus 10 États qui ont une perspective européenne, qui bénéficient d'un système où on met ensemble ce que nous avons pour répondre tant aux crises provoquées par le changement climatique, par les guerres, les attaques terroristes, des éventuelles attaques chimiques, radiologiques, dont nous avons donc des capacités de stockage, qui sont réparties dans 34 bureaux stratégiques. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous conscients qu'on est plus forts ensemble. L'union fait la force, comme dit le proverbe qui est en fait à la base de la création de la Belgique. Mais c'est aussi l'Union européenne à son meilleur. Ce sont des notions de solidarité, de prospérité, de paix. Et comment répondre finalement à ce paysage sans cesse et évolutif de catastrophes, de guerres, de ce monde qui est en crise, qu'ensemble. Et donc il faudrait presque changer complètement la procédure et que les États membres tout de suite réagissent. Et là d'ailleurs la France a agi assez vite puisqu'elle a demandé très vite aux satellites, à nos capacités satellitaires, le satellite Copernicus, de donner en fait des cartes pour permettre d'évaluer les besoins, la catastrophe et y répondre avec la contribution de plusieurs États membres qui ont donné des capacités d'abri essentiellement pour les personnes qui ont perdu leur logement et des moyens de communication aussi.
Alors, Adja Labib, deuxième corde à votre arc, la défense de l'égalité. L'égalité homme-femme au sein de l'Union européenne, elle semble progresser assez lentement quand même, hein. Y compris d'ailleurs au sein de votre commission, Ursula von der Leyen II, moins paritaire que la précédente. Est-ce qu'en période de crise, c'est le retour en force des hommes, j'ai envie de dire?
Vous savez, j'ai envie de citer Simone de Beauvoir qui a écrit « Il suffira d'une crise religieuse, économique, politique pour que les progrès en matière de droits des femmes soient mis en danger et qu'il nous faudra donc rester vigilantes à chaque instant. Et c'est ce qui se produit. Nous vivons dans un monde polarisé, confronté à de multiples crises, on vient de le voir avec Mayotte, et il y a un repli, il y a un repli général des droits humains et en particulier des droits des minorités, bien que les femmes ne soient pas une minorité et au contraire même une majorité. Alors, vous dites que la Commission est un petit peu en recul pour ce qui est de l'équilibre genre. Heureusement qu'Ursula von der Leyen a insisté, Madame la Présidente de la Commission, pour qu'il y ait des pays qui proposent des femmes, sinon peut-être même que je ne serais pas là en face de vous. Le Parlement est aussi moins féminin que le précédent. Donc, c'est un mouvement général. C'est pour ça qu'on doit être vigilant. Et je suis très heureuse d'avoir ce portefeuille qui est construit finalement autour de valeurs, de diversité, d'inclusivité et de principes de solidarité et d'humanité.
Alors, lors de votre audition, d'ailleurs, devant le Parlement européen, vous avez dû répondre à des questions assez difficiles sur les droits à l'avortement, la prévention des violences conjugales, qui sont des enjeux maintenant de civilisation, des enjeux politiques très forts. Le corps des femmes est devenu un champ de bataille, avez-vous dit.
Mais je pense qu'on a ce qu'on appelle en anglais un backlash, effectivement.
Une régression.
Une régression, une polarisation. C'est peut-être aussi le reflet des réseaux sociaux. C'est blanc, c'est noir. Le juste milieu se perd. Et ce qui me tient à cœur, c'est de remettre toujours en perspective l'égalité. On parle de compétitivité, par exemple. Comment assurer la compétitivité de l'Union européenne en maintenant cette chape qui maintient les femmes dans des métiers mal payés. Comment parler de compétitivité quand on sait que la violence à l'encontre des femmes sur un an dans l'ensemble de l'Union européenne coûte à notre Union 290 milliards, j'ai bien dit milliards, en termes de médicaments, d'absentéisme au travail, de gestion psychologique des enfants, de pauvreté aussi. Vous savez, le fossé de pension pour une femme, entre une femme et un homme, est de 25% à peu près. Donc tout cela, en fait, nous maintient aussi, empêche notre compétitivité d'avancer. Ça nous coûte aussi, donc. Parlons sonnant et trébuchant. Cela, au-delà des valeurs qui me tiennent à cœur, évidemment, il y a aussi un impact que vous payez tous les jours.
Vous avez commencé à parler, effectivement, des réseaux sociaux, Madame la Commissaire. Vous êtes aussi en charge du cyberharcèlement. Elon Musk se fait depuis des années le défenseur d'un conservatisme assumé, multipliant les sorties misogynes, sexistes. Il faut viriliser les réseaux sociaux, estiment certains d'ailleurs. Est-ce que ça aussi, il faut réussir à y mettre bon ordre et surtout à pouvoir l'encadrer pour que ça n'affecte pas trop les femmes et les minorités bien sexuelles européennes?
Mais cela affecte déjà les femmes et les minorités. Nous savons que les femmes et les minorités sont les premières victimes du cyberharcèlement, qui est une violence aussi forte que la violence physique et qui mène à des drames, entre autres chez les adolescents, parfois à des suicides. Donc nous avons pris des directives pour obliger les plateformes à repérer quand il y a du cyberharcèlement, quand il y a de la désinformation massive, quand l'intelligence artificielle est utilisée aussi pour nuire. Ce sont des directives qui vont être mises en place. On a adopté beaucoup de directives, de législations européennes très révolutionnaires, je dois dire, lors du mandat précédent. Et maintenant, il s'agit de les mettre en œuvre. Et donc, c'est le pari, ça va être mon pari, dans les deux ans, d'avoir véritablement un contrôle de toute cette nuisance, en fait, qui a un impact sur notre vivre ensemble et sur notre épanouissement à tous.
Adja Labib, merci encore pour cet entretien. Merci à vous d'avoir été en notre compagnie sur France 24 et Radio France Internationale. Restez bien sûr sur nos deux antennes où l'actualité continue.